venir del hombre. En este nombre. Tu es le Dieu illimité. Toi, tu agis infiniment au-delà de nos demandes, au-delà de nos pensées. Nous nous attendons à toi. Toi, l'espoir des extrémités lointaines de la terre et de la mer. Toi, qui as tous les atouts, tout ce qu'il faut pour, ô Dieu, voir nous combler. Nous nous attendons à toi ce matin. Merci. Parce qu'effectivement, tu es disposé, ô Dieu roi, à nous faire du bien, à faire du bien à ma soeur, à le rencontrer dans nos besoins, dans ses besoins, dans, ô Dieu roi, ses attentes. Bénis donc, Seigneur, ce moment. Et nous voulons que ton esprit nous vienne à l'aide. Non seulement, ô Dieu roi, pour communiquer ta parole, mais aussi pour l'écouter et en comprendre la quintessence. Bénis donc ces instants, laisse le Saint-Esprit agir et glorifier le nom de Jésus au milieu de nous. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur notre Dieu? Merci Seigneur notre Dieu. Shalom bien-aimés. Nous retournons toute la gloire au Saint d'Israël, l'Éternel notre Dieu, pour la grâce qu'il nous accorde ce matin, la grâce de nous retrouver dans sa sainte présence. Le psalmiste a dit, pour moi, m'approcher de toi, m'approcher de Dieu, c'est mon bien. Oui, si tu t'approches de Dieu, on peut être là, mais sans être près de Dieu. Nous allons le voir. Mais si tu t'approches de Dieu, ce sera pour ton bien. Avant d'entrer dans le vif de notre message, nous tenons à remercier nos parents spirituels, certainement qui vont nous suivre en différé. Nous leur disons merci pour leur dévolu qu'ils ont jeté sur notre modeste personne, pour qu'en ce jour nous nous tenions devant vous pour partager la parole de Dieu. Notre prière pour eux est que là où ils sont, que le Seigneur le soutienne, qu'il renouvelle leurs forces et les ramène parmi nous complètement requinqués. Et pour vous qui êtes déjà là, nous vous disons merci pour votre attention. Vous savez, bien aimé, on nous l'a toujours dit, et ce ne sera pas la dernière fois, la volonté de Dieu est que nous prospérions. La volonté de Dieu est que nous marchions la tête haute. La volonté de Dieu est que nous allions de l'avant. Mais il se fait que dans nos églises, il y a des chrétiens qui sont en train de tourner en rond. Il y a des chrétiens qui sont en train de faire du surplace. Et quand on fait du surplace, on va aller de frustration en frustration. Et à cause de ces frustrations-là, ces chrétiens-là vont d'église en église à la recherche des solutions. Ils vont de prophète en prophète à la recherche de réponses à leurs problèmes. Et ne les trouvant pas, deux fois, il leur arrive de douter même de l'amour de Dieu à leur égard. Pourtant, Dieu est disposé à faire du bien à tout un chacun de nous. Bien-aimés, si nous voulons accéder à la gloire de Dieu, si nous voulons expérimenter la main de l'Éternel dans notre vie, eh bien, il nous faut absolument que nous sortions du lot. Tu dois sortir du lot. Si tu veux voir la gloire de Dieu. Et c'est un problème personnel. Il faut absolument que tu sortes du lot pour voir la gloire de Dieu. C'est pratiquement le thème de notre message. Sors du lot. Nous allons faire trois lectures. Nous allons lire trois passages bibliques. Sors du lot. Qu'est-ce que ça veut dire? Nous allons le voir. Nous allons lire premièrement dans Marc chapitre 5. Marc chapitre 5, le verset 22 à 23. Nous sauterons pour lire le 25e verset, puis le 29e. Pour ceux qui écrivent, Marc chapitre 5, le verset 22 à 23, puis 25 et 29. Nous lirons également 1 Samuel chapitre 7, le verset 11 à 28. 11 et 28, Marc, 1 Samuel plutôt, chapitre 1er, le verset 7, verset 11, puis le verset 28. Et enfin, nous lirons dans 1 Roi, chapitre 17, le verset 4 à 5, puis 9 à 10a. Je commence par Marc, chapitre 5, le verset 22 à 23. Alors vint un des chefs de la synagogue nommé Jaïrus, qui, l'ayant aperçu, se jeta à ses pieds et lui adressa cette instante prière. Ma petite fille est à l'extrémité. Viens, impose-lui les mains, afin qu'elle soit sauvée et qu'elle vive. Or, il y avait une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans. Ça, c'est le verset 25. Verset 29, au même instant, la perte de sang s'arrêta et elle sentit dans son corps qu'elle était guérie de son mal. 1 Samuel chapitre 1er, verset 7. Et toutes les années, il en était ainsi. Chaque fois qu'Anne montait à la maison de l'Éternel, Pénina la mortifiait de la même manière. Alors elle pleurait et ne mangeait point. Verset 11. Elle fit un vœu en disant, Éternel des armées, si tu daignes regarder l'affliction de ta servante, si tu te souviens de moi et n'oublies point ta servante, et si tu donnes à ta servante un enfant mâle, je le consacrerai à l'Éternel pour tous les jours de sa vie, et le rasoir ne passera point sur sa tête. Aussi, je veux le prêter à l'Éternel. Il sera toute sa vie prêté à l'Éternel. Et il se prosternera devant l'Éternel. Le dernier passage, 1 Roi, chapitre 17, le verset 4 à 5. Tu boiras de l'eau du torrent et j'ai ordonné au corbeau de te nourrir là. Il partit et fit selon la parole de l'Éternel et il alla s'établir près du torrent de Kérit, qui est en face du Jourdain. Lève-toi, va à Sarepta. Verset 9. Lève-toi, va à Sarepta qui appartient à Sidon et demeure là. Voici, j'y ai ordonné à une femme veuve de te nourrir. 10, il s'éleva, 10a, il s'éleva et il alla à Sarepta. Amen. Oui, peut-être que c'est ton cas ce matin, bien-aimé. Ça fait un bon bout de temps. Peut-être ça fait des années que tu es en train de prier pour un certain nombre de choses. Mais tu as comme impression que le ciel est complètement fermé. Et même la terre, elle est d'airain. Rien ne marche. Toutes les portes sont fermées. Si tu veux voir la gloire de l'Éternel, tu as besoin de sortir du lot. Qu'est-ce que ça veut dire sortir du lot? Sortir du lot, c'est se démarquer de la foule. Sortir du lot, c'est singulariser. C'est le fait de ne pas se laisser entraîner par la foule. Le fait de ne pas faire tout comme tout le monde. C'est le fait de ne pas chercher à être à la mode. En deuxième lieu, sortir du lot, c'est aussi changer de méthodologie quand on s'approche de Dieu. Sortir du lot, c'est également être sensible au Saint-Esprit. Tels sont les trois points autour desquels va graviter notre message. En premier lieu, donc nous allons partir du sortir du lot, c'est-à-dire se démarquer de la foule. En deuxième lieu, nous parlerons de changer de méthodologie. Tu dois changer ta méthodologie, ta manière de t'approcher de l'Éternel. Et en troisième lieu donc, nous allons parler de la sensibilité au Saint-Esprit. Il est important pour toi, ma sœur, mon frère, d'être sensible à la voix du Saint-Esprit. Premier point, c'est démarquer de la foule. Bien-aimés, nous sommes appelés à nous singulariser. Si nous voulons voir la gloire de Dieu, nous sommes appelés à nous singulariser, nous sommes appelés à nous distinguer, nous sommes appelés à sortir du lot, nous sommes appelés à sortir de la foule si nous voulons voir la gloire de Dieu, parce que la gloire de Dieu est là. La gloire de Dieu est là pour quiconque. La Bible déclare, Christ en vous, l'espérance de la gloire. Et ce n'est pas une vaine promesse, non, c'est la vérité. Dans le premier passage que nous avons lu, connu de tous, d'ailleurs le pasteur Élie en a parlé la fois passée. Avant qu'il en parle, eh bien, sur ce message, ce passage-là, j'ai noté. Et quand il a fait mention de ça, je me suis dit, mais finalement, est-ce que je peux mettre de côté ça? Non, je me suis dit, non, je ne mets pas de côté ça. Dans ce premier passage, après avoir guéri le fou de Gadara, le Seigneur va trouver une grande foule qui l'attendait. Je me dis toujours que cette foule-là, c'est pas telle que nous sommes là, non. C'était des milliers de gens. Et je prends comme référence lorsqu'il a multiplié du pain. La Bible déclare qu'il y avait 5000 femmes, 5000 hommes, sans compter les femmes et les enfants. Et nous savons que généralement, dans une assemblée, les femmes sont plus nombreuses que les hommes. Et les enfants plus nombreux que les femmes. Donc c'était au-delà des 10 000. Jésus trouve cette foule-là qui l'attendait. Dans cette foule-là, il y avait des gens qui avaient des problèmes, qui étaient bourrés de problèmes. Et il y en a ici. Bourrés de problèmes. Il y avait des gens qui étaient inquiets, qui se posaient mille et une questions. Ils attendaient Jésus. Parmi eux, il y avait également des curieux. Des gens qui voulaient voir quel miracle Jésus allait faire et pour qui. Des curieux. Il y avait aussi des gens qui voulaient tuer leur temps. Passez-moi l'expression. Parce qu'ils n'avaient rien à faire. Bon. Il y a une foule là-bas. Allons un peu. Passons notre temps en attendant que la nuit vienne pour qu'on dorme. Beaucoup de gens. Ils étaient tellement nombreux qu'ils pressaient le Seigneur de tous côtés. Jésus était bousculé de tous côtés. Comment je le sais? Lorsque la femme, à la perte de sang, a touché Jésus, Jésus a senti qu'une force était sortie de lui et il va tourner les regards tout autour de lui, dit, qui m'a touché? Pierre lui pose la question, mais Seigneur, qu'est-ce que tu racontes là? Quelle question? Tu vois bien qu'il y a une grande foule, on te presse de tous côtés, et tu dis qu'il m'a touché. Il était touché de tous côtés. Il y avait aussi des gens qui étaient venus juste pour écouter ce que Jésus allait leur dire. Mais de tous ces gens-là, il n'y a eu que deux personnes qui ont trouvé gain de cause. Il n'y a eu que deux personnes qui ont trouvé la solution à leurs préoccupations. Deux personnes seulement, sur plus de 10 000 personnes. Et ma prière est que tu sois l'une de ces personnes-là. À quoi bon écouter et ne pas mettre en pratique? À quoi bon chercher à écouter? À quoi bon chercher à avoir la connaissance si nous ne mettons pas en pratique? Il nous a été dit la fois passée, le dimanche passé, c'est pas le dimanche passé ou le mercredi, c'est quand nous mettons en pratique. Bien aimé, c'est une occasion pour moi de nous inviter à venir massivement aux écoles publiques. Vous savez, si nous voulons être stables, les études bibliques, les enseignements ne sont pas à négliger. Tout chrétien qui néglige les enseignements, les études bibliques, il est fragile. À quoi bon chercher seulement à écouter la parole de Dieu si nous ne mettons pas en pratique, si nous ne saisissons pas cette parole-là, si nous ne la déclarons pas, si nous ne faisons pas cette parole nôtre, à quoi bon? Christ dit dans Jean chapitre 13, verset 17, si vous connaissez ces choses, vous êtes heureux. Mais il y a une condition, que vous les mettiez en pratique. De tous ceux qui avaient des problèmes, de tous ceux qui avaient des soucis, des inquiétudes, de tous ceux qui se posaient mille et une questions, qui étaient dans la foule, de tous ceux qui voulaient écouter juste l'enseignement, de tous les curieux, de tous ceux qui bousculaient le Seigneur de tous côtés, deux personnes seulement avaient trouvé gain de cause. Et j'ai peur, même à l'avènement de Christ, beaucoup vont regretter. Beaucoup vont. Pourtant, ils ont fréquenté l'église, ils étaient dans l'église. Beaucoup vont regretter. Une seule personne seulement sera sauvée. Vous savez laquelle? Jésus en parle, il dit, seul celui qui fait la volonté de mon Père, qui est dans les cieux. C'est-à-dire, seul celui qui écoute et met en pratique, seul celui qui garde la parole, c'est celui-là qui sera sauvé. Seules deux personnes ont trouvé gain de cause. Il y en a qui sont venus. Jésus est au milieu de nous. Qui sont venus avec des soucis, avec des fardeaux, mais pendant que la parole est en train d'être prêchée là, ils sont en train de penser à leurs problèmes. Ils sont en train à penser à leurs difficultés. Ils sont en train de pleurer dans leur cœur au lieu de se décharger sur Jésus qui est là. Oui, on peut être présent physiquement, mais spirituellement, être ailleurs. Jésus parle à la foule qui était venue dans Jean chapitre 5, le verset 39 à 40. Il n'a pas écrit, non. Il parlait aux gens. Il leur dit, vous sondez les Écritures parce que vous pensez trouver en elles la vie éternelle. Ce sont elles qui rendent témoignage de moi. Et vous ne voulez pas venir à moi pour que je vous donne la vie. Comment que nous venions à toi pour que tu nous donnes la vie? Parce que nous ne sommes pas là. Non. Vous pouvez être là, mais sans être là. Est-ce que tu es là, ma sœur? Est-ce que tu es là, mon frère? Deux seulement ont trouvé gain de cause. Oui, comme je l'ai dit tout à l'heure, il n'y avait pas que la femme à la perte de sang qui avait touché Jésus. Plusieurs le touchaient.
Plusieurs l'ont bousculé. Peut-être, ça c'est moi qui dis, peut-être que tellement on l'a bousculé, il avait tendance à perdre l'équilibre, le Seigneur. Mais une seule femme l'a touché. Une seule femme, une seule personne l'a touché et immédiatement, elle a obtenu la guérison. Immédiatement. La deuxième personne, d'abord cette femme qui était aussi dans la foule. Vous savez, comment elle a touché Jésus? C'est par la foi. Par la foi et par le courage. Le courage, parce que elle n'a pas déconsidéré le risque qu'elle courait. Et si elle avait été remarquée? Et si elle avait été démasquée? En tant qu'une femme impure, dans la foule, quel sort lui serait réservé? Elle n'a pas tenu compte de ça. Le courage. La foi, elle s'est dit, si Jésus n'est pas n'importe qui, il n'est pas n'importe quel maître, si je touche seulement le pan de sa robe, assurément, je serai guéri. Le courage, la foi. La deuxième personne, donc la femme, s'est démarquée de la foule. Démarquée de la foule. Est-ce que tu peux te démarquer ce matin? Est-ce que tu peux te démarquer ce matin en touchant le Seigneur par ta foi? Est-ce que tu peux te démarquer? Est-ce que tu peux sortir du lot? Nous sommes là nombreux. Est-ce que tu peux sortir du lot et toucher le Seigneur? Ça fait beaucoup d'années que tu pries pour la même chose. Est-ce que tu peux sortir du lot? La deuxième personne qui s'est démarquée, qui est sortie du lot, qui est sortie de la foule, qui s'est distinguée, qui s'est singularisée, c'était Jaïrus. Jaïrus trouve Jésus avec la foule. Je ne pense pas que Jésus était là, silencieux. Non. Je crois qu'il était en train d'enseigner. Je crois. Parce que il savait que le temps était très court pour lui. Il ne pouvait pas perdre le temps. Non. Certainement qu'il était en train de faire quelque chose. Mais qu'est-ce que Jaïrus fait? Quand il vient, il arrête Jésus. Il dit, Seigneur, ma fille est en train de mourir. Viens, tu lui imposes les mains afin qu'elle le guérisse. Jaïrus, est-ce que ton problème est plus important que ceux de cette foule? Ça, ce n'est pas le problème de Jaïrus. Ton problème, il nous a été dit que, bien-aimé, ton cas est particulier. Ton cas est particulier. Approche-toi de l'Éternel. Tu n'as pas à regarder à gauche, à droite. Non, non. Tu n'as pas à te poser la question de savoir qu'est-ce que le Seigneur a déjà fait pour... Non, non, non. Ton cas est particulier. Approche-toi de Dieu de tout ton cœur. De tout ton cœur. Seigneur, viens. Et le Seigneur dit, ok, je vais venir. Le Seigneur est attiré par la foi. Il est attiré par la foi. Quand le Seigneur réalise que sa foi, la foi de Jaïrus, était sur le point de baisser, pourquoi? Parce que pendant que Jésus était en train de poser la question de savoir, mais qui m'a touché? Parce que j'ai senti une force sortir de moi. Qui m'a touché? Il tournait en rond, il tournait ses regards tout autour de lui. Il y a un groupe de gens qui sont venus de chez Jaïrus pour lui dire, ta fille est décédée. En tout cas, ne dérange pas le maître. C'est déjà fini. Pendant que le Seigneur était en train de parler, pendant que les gens étaient en train de murmurer dans cette foule-là, donc il y avait un grand bruit, le Seigneur était capable d'entendre aussi ce que ces gens-là disaient à Jaïrus. Dieu est à écouter ta parole, même dans une grande foule. Dieu est capable de reconnaître ta voix, même parmi des milliers de voix. Dieu est capable se rendant compte que la foi de Jaïrus était sur le point de baisser, Jésus se tourne vers lui et dit, « Toi, crois seulement. Ma sœur, mon frère, est-ce que tu peux continuer à croire, malgré ce que le temps et les circonstances sont en train de véhiculer comme message, malgré les réalités que tu vois sont en train de faire circuler comme message, que c'est trop tard, que ça fait très longtemps, ce dossier-là, peut-être qu'on l'a déjà déclassé, peut-être qu'on l'a déjà brûlé. Est-ce que tu peux continuer à faire encore confiance au Seigneur? » Une deuxième personne qui s'est démarquée, qui est sortie de la foule, qui est sortie du lot, Jaïrus, parmi plusieurs. Est-ce que tu peux aussi le faire? Est-ce que tu peux le faire aussi? Que nous ne soyons pas une église de frustrés. Non. Comme si le Seigneur n'était pas au milieu de nous. Jésus est au milieu de nous. Et il a la vie. Il est disposé à répandre la vie. La vie en abondance. Mais ne peut recevoir cette vie-là que celui qui peut se démarquer. Celui qui peut sortir du lot. Bien-aimé, pourquoi tu doutes? Pourquoi tu te contentes à écouter seulement la parole de Dieu, à emmagasiner parole sur parole, au lieu de la mettre en pratique, au lieu de t'en approprier, de faire ta propriété, de dire que ça, c'est ma parole, ça, c'est le Seigneur qui me parle, et désormais de marcher conformément à ce que tu as entendu. Pourquoi? Pourquoi tu te mets... Parce que 2 jours, 3 jours, 4 jours sont passés, il n'y a rien. Tu commences à te tromper par des faux raisonnements. Pourquoi? Dans Josué chapitre 4, le verset 20 à 24, il nous est relaté quelque chose de magnifique. Lorsque le peuple d'Israël est sorti de l'Égypte, il s'est retrouvé, après avoir traversé la mer Rouge, il s'est retrouvé devant un autre obstacle, c'était le Jourdain. Et cette période-là était tout à fait particulière. Les eaux débordaient du Jourdain, du fleuve Jourdain. Comme nous l'avons connu il y a quelques mois ici, le fleuve Congo était débordant. Même quelques avenues, quelques maisons étaient pratiquement dans l'eau. C'était le cas à cette époque-là. Dieu va ouvrir le Jourdain, le peuple va passer à pied sec. Et Dieu va dire à Josué, « Josué, choisis 12 personnes, chacune représentant une tribu, qu'ils prennent 12 pierres du lit du fleuve Jourdain et que ces personnes-là les amènent à l'autre bord. Tu vas constituer un monceau de pierre. » Et Josué dit au peuple d'Israël, « Quand vos enfants vous poseront la question de savoir, mais qu'est-ce que ça veut dire ces pierres ? Vous leur direz que l'Éternel a ouvert le Jourdain, nous sommes passés à pied sec. » Qu'est-ce que ce passage dit exactement ? Josué dit ceci au verset 23. « Car l'Éternel, votre Dieu, a mis à sec devant vous les eaux du Jourdain jusqu'à ce que vous eussiez passé comme l'Éternel, votre Dieu, l'avait fait à la mer Rouge qu'il mit à sec devant nous jusqu'à ce que nous eussions passé afin que tous les peuples, verset 24, afin que tous les peuples de la terre sachent que la main de l'Éternel est puissante. Afin que tous les peuples de la terre, dont nous faisons partie du peuple de la terre, que nous sachions que la main de l'Éternel est puissante. Bien-aimé, j'aimerais te dire que la main de l'Éternel est puissante pour te guérir de toutes a dit, quelle que soit son origine, ça peut être d'origine naturelle ou démoniaque, Dieu est capable de te guérir. Dieu est capable de tracer un chemin nouveau devant toi. Dieu est capable d'accomplir des choses au-delà de tes attentes. Dieu est capable de te faire pleurer, de te faire verser des larmes d'adoration, des larmes de reconnaissance. Tu commences à dire, est-ce que c'est moi ou c'est quelqu'un d'autre? Dieu est capable. Pourquoi tu doutes? La main de l'Éternel est puissante pour ouvrir cette porte qui t'a résisté depuis longtemps. La main de l'Éternel est puissante pour ouvrir la porte du mariage. La main de l'Éternel est puissante pour ouvrir la porte du travail. La main de l'Éternel est puissante pour t'élever. La main de l'Éternel est puissante pour essuyer tes larmes. Il l'a fait. Il est capable de le faire encore aujourd'hui. Est-ce que tu peux sortir du lot? Afin que tous les peuples sachent que la main de l'Éternel est puissante. Cette main, ça fait des années, cette main est encore puissante. Le temps n'a pas d'impact sur la main de l'Éternel. Les circonstances n'ont pas d'impact sur la main de l'Éternel. La foule n'a pas d'impact sur la main de l'Éternel. Non, elle est puissante pour accomplir des miracles pour toi. Est-ce que tu peux sortir du lot? Oui, elle est capable de te relever de là où tu es. Elle est capable de te ramasser de là où on t'a jeté. La main de l'Éternel. Elle est puissante. Crois encore, ma sœur, mon frère. Ne sois pas incrédule. Crois encore. Sors du lot. Sortir du lot, c'est aussi changer de méthodologie. Quand on s'approche de Dieu, c'est notre deuxième point. Changer de méthodologie quand nous nous approchons de Dieu. Comme je l'ai dit tout à l'heure, tu as prié, ça fait un bon bout de temps. Les choses, tu as comme impression que tu tournes en rond. Et quand on tourne en rond, comme je l'ai dit, ce sont les mêmes résultats. Or, Dieu ne veut pas que nous soyons dans les mêmes résultats, mais que nous allions de gloire en gloire, de victoire en victoire. Que nous puissions progresser. C'est la volonté de Dieu. Est-ce que tu peux changer ta façon d'approcher de Dieu? Est-ce que tu peux sortir des habitudes, des chemins battus? La Bible nous parle de Anne. La Bible nous parle des années. Elle nous dit, chaque année, il en était ainsi. Anne était persécutée. Anne était humiliée par sa rivale. Elle pleure, elle va dans la présence de Dieu. Elle pleure chaque année. Il en était ainsi. Le ping-pong. On la persécute, on la mortifie. Elle pleure parce qu'elle était stérile. Elle pleure, elle va dans la présence de Dieu. Elle rentre. Et continue comme ça. Ça faisait plusieurs années. Et quand elle allait dans la maison de l'Éternel, c'était pour prier. Pas de résultat. Mais un jour, Anne prend la décision de changer sa façon de prier. Comment? Premièrement, Anne discerne que Dieu a un besoin qui n'est pas encore satisfait. Un besoin que personne, auquel personne n'avait pensé. Un besoin que personne n'avait vu, n'avait remarqué. Un besoin qui était jusque-là insatisfait. Et elle se porte garante pour y apporter la solution appropriée. Quel était le besoin de Dieu? Anne discerne que Dieu avait besoin d'un souverain sacrificateur fidèle. Un souverain sacrificateur consacré à lui parce que le souverain sacrificateur Élie qui était déjà là était défaillant à cause de son âge avancé. Et même ses enfants qui prétendaient servir le Seigneur ne le connaissaient pas. Et dans leur service, il y avait beaucoup d'égarements, beaucoup d'abominations qu'ils commettaient. On discerne que Dieu a besoin d'un souverain sacrificateur. Alors elle va dans sa présence. Un jour, elle va élever la prière que nous avons lue tout à l'heure. Elle dit quoi? Éternel des armées, si tu daignes regarder l'affliction de ta servante, si tu te souviens de moi et n'oublies point ta servante, et si tu donnes à ta servante un enfant mâle, je le consacrerai à l'Éternel pour tous les jours de sa vie. Anne discerne le besoin de Dieu qui était insatisfait. Anne change sa manière de s'approcher de Dieu. Elle prie autrement. Et Dieu l'a visitée. Dieu lui a donné ce qu'elle cherchait depuis des années. Une chose qui me fait toujours tiquer au sujet de Anne, lorsque le temps était arrivé de sevrer l'enfant, Anne va amener le petit Samuel auprès du souverain sacrificateur, comme elle l'avait promis. Mais elle l'amène avec un langage bizarre, un langage très fort. Qu'est-ce que au souverain sacrificateur, que cet enfant, c'est pour cet enfant que j'ai prié. Dieu m'a exaucé. Je te l'amène. Je le prête à Dieu toute sa vie. Tiens, Anne, toi individu, tu veux prêter à Dieu quelque chose? Toi individu, toi humain, tu veux prêter au divin? Tiens, Anne! On change de méthodologie. On change de manière. Tu prêtes à Dieu pour que Dieu soit ton débiteur et toi sa créancière. Qu'est-ce que tu dis là, Anne? Par ses propos, Anne a provoqué Dieu. Et vous savez ce qui est arrivé? Dieu a réagi. Dieu a de nouveau béni Anne. Dieu a de nouveau visité Anne pour lui donner trois fils et une fille en dehors de Samuel. La stérile, qui a fait des années, pas 3 ans, pas 5 ans, pas 6 ans, parce que la Bible nous dit qu'Elkana avait de Pénina des filles et des fils. Donc, au moins 2 filles et 2 fils. Ça fait 4 enfants qu'on ne veut pas avoir dans 5 ans, normalement. Et pendant tout ce temps-là, Anne allait au temple, elle pleurait, elle priait, mais un jour, elle discerne. Bien-aimé, est-ce que tu peux discerner le besoin de Dieu? Cesse de faire des prières égoïstes. Prière où c'est toi qui es au centre. Cesse. Change ta manière de t'approcher de l'Éternel. Que Dieu trouve son compte dans ce que tu lui demandes. Que Dieu se rende compte que si j'agis, je vais tirer gloire. Et non, toujours moi, Seigneur, pour qu'on sache que moi aussi j'existe. Et la gloire de Dieu est où? Si les gens vont savoir que toi aussi tu existes, que toi aussi tu es quelqu'un, la gloire de Dieu sera où? Pour que les gens sachent que toi aussi tu es une personne, que toi aussi tu as droit à la vie, que toi aussi tu as droit, tu as aussi place au soleil, la gloire de Dieu sera où? Est-ce que tu peux changer ta manière de t'approcher de Dieu? Est-ce que tu peux changer ta manière d'invoquer Dieu? Est-ce que tu peux changer de telle manière que quand tu pries, que Dieu réalise qui a mon intérêt, que je vais tirer gloire. Dieu réalise que, oui, si je lui donne un enfant mâle, il sera à mon service. J'ai aussi une part là-bas. Parce qu'elle ose dire qu'elle va me prêter l'enfant, non pas pendant 6 mois, non pas pendant 10 ans, mais toute sa vie, elle ne va pas rester seule. Parce que si elle me prête cet enfant-là, elle ne sera pas, elle sera sans enfant. Cet enfant-là sera avec moi. Elle ne pourra pas l'envoyer. Or, quand elle envoyait le fils de Peninnah, Peninnah s'est moqué d'elle, Peninnah l'a mortifié. Parce qu'elle ose me prêter cet enfant-là, parce qu'elle ose me donner totalement cet enfant-là, elle ne sera pas sans enfant. Anne a changé sa manière. Anne a discerné le besoin de Dieu. Anne s'est rendu compte qu'il faut que Dieu tire gloire. Pas à moi, mais à Dieu. Est-ce que tu peux changer ta manière de t'approcher de Dieu? Oui, sortir du corps, c'est aussi être sensible au Saint-Esprit. C'est notre troisième point, la sensibilité au Saint-Esprit. Bien-aimés, si le prophète Élie était un chrétien moderne, il réagirait autrement devant le torrent de Kérit lorsque ce torrent-là avait séché. Il réagirait autrement s'il était un chrétien moderne. Après qu'il ait déclaré qu'il n'y aura pas de pluie, il y a eu la sécheresse dans le royaume d'Israël. Et lui aussi, il devait subir ça. Mais Dieu l'a épargné parce que Dieu fait toujours la différence. Il a dit, vous verrez la différence. Dieu va lui dire à Élie, tu vas te cacher au torrent de Kérit. C'est là que j'ai ordonné au corbeau de te nourrir. Et tu boiras l'eau du torrent. Effectivement, chaque jour, les corbeaux amenaient le pain et la viande à Élie. Mais un jour, Élie se réveille, il trouve que le torrent avait séché. Comment ça? C'est Dieu qui m'a dit que je veux commencer à boire l'eau du torrent. Mais comment le torrent peut sécher? Ça ne peut être que des combats spirituels. Élie, s'il était chrétien, le chrétien actuel, il allait prendre tout son temps pour chasser le démon de sécheresse. Je te chasse au nom de Jésus. Toi, le diable, tu n'as pas... Pourtant, ce n'était pas le diable, c'est Dieu. Élie ne s'inquiète pas. Comment ça sécher? Comment ça peut sécher? Alors que c'est le... Non, il ne s'inquiète pas. Élie fait confiance à l'Éternel et Élie va entendre la voix de Dieu qui lui dit, maintenant là, va à Sarepta. J'ai ordonné à une veuve de te prendre totalement en charge. Élie était sensible à la voix du Saint-Esprit. Élie, parce qu'il était sensible à la voix du Saint-Esprit, il a vu la gloire de l'Éternel. Peut-être que les choses ont changé. Les choses ont séché tout autour de toi. Est-ce que tu peux être sensible à la voix du Saint-Esprit? Comment Dieu parle? Dieu parle de plusieurs manières, par sa parole. Dieu parle par des songes. Dieu parle par des temps. Dieu parle par des circonstances. Dieu parle même par ceux qui nous entourent. Même les petits-enfants, Dieu peut nous parler par eux. Il y a un frère, là c'est Amata dit, un frère qui rendait témoignage, qui dit qu'il voulait voyager. Il voulait voyager pour venir ici à Kinshasa. Mais un jour, il se rendait quelque part, il entend un fou qui est en train de dire, mais pourquoi tu veux voyager? Ça ne sert à rien de voyager, un fou. Et le frère avait compris que ce n'était pas le temps. Et plus tard, il va réaliser qu'effectivement, s'il avait voyagé, ce serait une perte de temps. Est-ce que tu peux être sensible à la voix du Saint-Esprit? Dieu nous parle également par la conviction interne. Tu te rends compte que les choses ne marchent pas. Mais il y a une certaine conviction interne. Tu dis, non, ça doit être le diable. Qui t'a dit que ça doit être le diable? Et si c'était Dieu qui était en train de te dire que voici le chemin? Parce que la Bible déclare que vous entendrez la voix derrière vous qui vous dira, voici le chemin. Et si c'était le Saint-Esprit qui était en train de te donner de nouvelles directives pour que tu voies la gloire de l'Éternel?
Amen, amen.
Bien-aimé, est-ce que tu peux sortir du lot? Est-ce que tu peux sortir du lot? Oui, si nous voulons voir la gloire de l'Éternel, eh bien, nous devons sortir, nous devons nous démarquer de la foule. Démarquons-nous de la foule, sortons du lot, sortons des chemins battus, sortons de nos habitudes, approchons-nous de l'Éternel autrement. Discernons ce qu'est la volonté de Dieu. Discernons qu'est-ce que nous pouvons aussi faire pour Dieu. Ne soyons pas comme, je l'ai dit, des assiettes qui attendent toujours qu'on les remplisse. Toujours. Non. Donnons aussi. Et soyons attentifs à la voix du Saint-Esprit. Nous allons nous incliner en prière.
Nous allons prier le Seigneur, Papa Ernest. Nous allons prier et Dieu veut que nous sortions du lot. La foule fait la même chose. Papa Ernest, Dieu n'est pas le Dieu de tout le monde, de la foule. Il est le Dieu des individus. Et la foule fait ce que tout le monde fait. La foule a dit, crucifie-les. Mais un individu a dit, souviens-toi de moi. Et Jésus n'a pas dit quand je viendrai, il a dit ce soir, aujourd'hui, pas demain, aujourd'hui. Alléluia.
Précieux Père Céleste, ce matin, nous sommes là à ton invitation. Et à cette invitation, un seul mot. Sors du lot. Un message qui s'adresse à tout un chacun de nous ce matin. Pour pouvoir expérimenter ta grâce. Ta grâce qui ne manque point dans la détresse. Quelles que soient les situations, tu sais nous secourir. Parce que ta main est puissante. Tu l'as fait, tu le fais, tu le feras éternellement. Tu ne changes pas. Tu nous vois, Seigneur, et tu connais nos limites. Ce matin, nous venons à toi pour que tu nous donnes les capacités pour ne pas défaillir sur notre chemin. Car te perdre de vue, c'est notre mort. Mais t'avoir au devant de nous et rester dans ta présence, c'est là notre réussite à tout jamais. Merci pour cette parole ce matin. Parole pleine, pleine de révélation. Parce que toi, tu ne changes pas et tu es là. Tu nous demandes seulement de nous démarquer et de te regarder autrement. Parce que toi, tu fais toujours autrement et au-delà de nos pensées. Merci de tuer en nous l'humain et la chair. Merci de tuer en nous les limites charnelles et de se focaliser sur tes capacités. N'est-ce pas que tu as dit à l'ange de dire à Marie que rien n'est impossible à toi. Alors Seigneur,